Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h42. On va donc défaire le monde maintenant, effectivement, dans RTL Soir. Avec vous, Cyprien Sini, oui. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info autrement, avec un œil plus décalé, pour vous apprendre plein de choses jusqu'à 19h. Le menu, Cyprien.
Le trafic de drogue dans le viseur, plusieurs pistes évoquées, des millions, de la répression, mais quid de la légalisation? On va vous éclairer sur le sujet. Au menu également, Matignon, un coq et Éric Ciotti. Enfin, des masques chirurgicaux transformés en règles et en équerres pour la rentrée. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et pour commencer, notre son du jour.
Peter Koch. Alors qu'Emmanuel Macron présente à Marseille ce fameux plan de plus d'un milliard d'euros pour notamment enrayer le trafic de cannabis, l'équipe dont défait le monde a voulu ouvrir une autre piste, celle de la légalisation.
Et attention, on parle bien de légalisation, hein, pas de dépénalisation. La dépénalisation, c'est la possibilité de consommer sans être condamné, mais sans s'attaquer en fait au trafic. Alors que la légalisation, c'est l'État qui décide d'encadrer la vente et la consommation de cannabis.
Alors, on s'est donc attaché à l'aspect économique d'une légalisation. Ça existe déjà dans beaucoup de pays, hein, l'Uruguay, le Canada et beaucoup d'États américains comme le Colorado.
On s'appuie sur ces exemples, on a voulu savoir si la légalisation était efficace pour assécher le trafic et si ça pouvait profiter à l'ensemble de la société.
Alors pour nous éclairer, on a contacté Pierre-Yves Joffard. Il est économiste, il est spécialiste de la question et vous allez l'entendre, légaliser, eh ben c'est pas forcément gagné.
Il y a plusieurs manières de rater la légalisation. Hein. Et si le but c'est d'assécher les trafics, un pays comme l'Uruguay, de ce point de vue-là, les résultats sont assez décevants. L'Uruguay a cherché à développer en termes de production un modèle avec des petits producteurs. Et l'offre légale aujourd'hui en Uruguay est très très inférieure à la demande totale. Par ailleurs, l'Uruguay s'est appuyé sur une distribution par les pharmacies, alors que les pharmaciens ont toujours été réticents à avoir ces produits dans leur pharmacie. Donc il y a une demande qui reste élevé et qui est très supérieur à l'offre légale aujourd'hui.
Donc la légalisation, ça ne fonctionne pas?
Pas à tous les coups en tout cas. En réalité, pour assécher le trafic, vous savez, c'est un peu comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Là, il y a un peu la bonne et la mauvaise légalisation. La mauvaise, c'est l'Uruguay, l'exemple que vous venez d'entendre. Et la bonne, c'est comme ça.
Qualité encadrée, prix compétitif par rapport à l'offre légale, accessibilité du produit aussi, hein, disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de boutiques qui soient ouvertes suffisamment longtemps, etc. Ce sont les ingrédients qui permettent de lutter contre les trafics. Au Canada, au bout de 3 ans, la demande passe à plus de 50%, je crois qu'on en est là à 58%, par les boutiques légales. Donc ça permet quand même de non pas d'assécher du jour au lendemain les trafics, mais en tout cas de diminuer assez rapidement, hein, en 2-3 ans, les ventes qui passent par les mafias, par les cartels, par les trafics. Il y a 4 ans, le produit était illicite. Il est devenu légal il y a 3 ans. Et pendant la période de confinement, il n'y a pas eu de débat. Les boutiques dédiées qui vendent du cannabis ont été qualifiées de commerce essentiel.
Et d'un point de vue économique, maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt?
Carrément. Ça peut même rapporter pas mal dans beaucoup de secteurs de l'économie réelle.
Il y a un potentiel énorme en termes de création d'emplois dans la production, mais surtout dans la distribution. C'est surtout là qu'il y a des emplois créés. Ça, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans le monde entier, quoi. Et en termes de recettes fiscales et en termes d'économie, des budgets, police, justice, hein, et pénitentiaire.
La légalisation comme solution face au trafic. Ouais. Bon, l'idée va sans doute ressurgir, hein. On n'en doute pas du côté de Marseille, notamment ces 2-3 prochains jours, puisque vous le savez, Emmanuel Macron est en ce moment au chevet de la deuxième ville de France. Dans RTL Soir, on continuera, bien entendu, de suivre son déplacement dans un quart d'heure dès 19h dans le journal.
RTL, sous les radars.
Tous les soirs, dans On défait le monde, une info injustement passée inaperçue.
Et ce soir, Céline, des médecins pour sauver les médecins.
Oui, je voulais vous parler du premier lieu dédié aux soins des soignants. Il a ouvert hier à Paris pour aider une profession qui a été très éprouvée ces derniers mois par la pandémie. Applaudie, on s'en rappelle, lors du premier confinement, tous les soirs à 20h. Mais éreintée aussi, confrontée au burn-out, à la dépression. Alors, c'est pas nouveau, le taux de suicide est 2,5 fois plus élevé chez les soignants que dans le reste de la population. Mais la crise du Covid a encore exacerbé tout ça. La preuve, s'il en fallait une, c'est le succès du numéro vert lancé par l'association Soins aux professionnels régionale de santé en 2016 et qui a reçu l'an dernier, au début de la crise, donc plus de 6000 appels. C'est plus de 4 fois plus que l'année précédente. Et les écoutants ont dû alerter les services d'urgence plus de 20 fois pour éviter des passages à l'acte suicidaire.
Ah oui.
Donc le président de cette association, il raconte en fait tout ça. Les médecins qui récupèrent en douce des antidépresseurs non consommés par les patients, des infirmières qui démissionnent, des problèmes de sommeil, des problèmes qui ont longtemps été considérés comme des pathologies de la honte dans le milieu médical. Ouais. Mais depuis la crise, elles sont davantage assumées. La première maison des soignants a donc ouvert hier dans la capitale et les promoteurs du projet espèrent maintenant en voir essaimer dans toute la France.
Très belle initiative, merci de l'avoir repéré ce soir, Céline Landreau. Une petite pause, on va continuer de défaire le monde évidemment dans RTL Soir. Nous allons vous livrer une info, la première, pour briller au dîner. On va parler foot.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h50, bonne fin de journée à l'écoute de RTL. On continue de défaire le monde dans RTL Soir. Voici la première info pour briller tout à l'heure au dîner. On vous rappelle que comme tous les soirs, il y en aura deux distillés pendant les 10 minutes qui viennent. Et bien entendu, je désignerai de manière totalement arbitraire la meilleure.
Et je rappelle que Laurent reste sur 5 défaites consécutives.
J'y crois encore, Laurent, comme disait la
J'y crois aussi, Laurent.
Merci. Allez, on est avec vous.
C'est la bonne ce soir, vas-y.
Vous faites la première ce soir et j'ai envie de vous dire cocorico.
Ah bah, et vous pouvez le dire, même vous pourrez le dire encore plus ce soir devant le match de l'équipe de France de foot contre la Bosnie-Herzégovine. Oui, parce que sous notre maillot, en dessous des deux étoiles, il y a notre emblème, le coq.
Ouais. Alors,
il n'est pas là par hasard. Il faut remonter à nos ancêtres, les Gaulois. Toute cette histoire vient des Romains. Ils se moquaient un peu de nous, car en latin, Gallus signifie à la fois Gaulois et coq. Donc sur le champ de bataille, vous imaginez, ah voilà les coqs. Mais le gallinacé,
vous le faites bien, le Romain.
Vous avez vu, c'est pas mal. Hein. Mais le gallinacé s'est imposé dans notre esprit. On l'a transformé en symbole courageux, combatif, audacieux. Il est mis en avant ensuite par les rois de France, les révolutionnaires qui l'utilisent comme emblème. Napoléon, bon, aura fait une tentative de remplacer notre coq par l'aigle impérial, mais cocorico, comme a dit Cyprien, voilà. Il a pris le dessus, le coq est toujours là.
Très bonne anecdote, Laurent. Le coq sur le maillot des Bleus, on le rappelle, ce soir, France-Bosnie à vivre sur RTL, prise d'antenne 20h40 pour les images, c'est sur M6. Évidemment.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et vous le savez, tous les soirs, l'impitoyable Céline Landreau fait trembler la planète actu. Loser ou winner, Céline désigne le gagnant ou le perdant du soir.
Et alors Céline, vous avez décidément plus peur de rien.
De rien.
Beaucoup de risques. Hein, parce que vous avez choisi un potentiel futur président de la République comme loser ce soir. Moi, je ne réponds plus de rien.
Là. Oui, je vous parle d'un candidat qui cherche à construire sa stature internationale.
Je serai candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle. J'y vais pour gagner.
Vous l'aurez reconnu, Éric Ciotti, qui doit donc s'affirmer comme président potentiel, donc comme potentiel futur chef des armées, et qui a décidé d'interpeller sur Twitter celui qui sera peut-être un jour son homologue, le président des États-Unis, Joe Biden, pardon, en lui reprochant d'avoir abandonné aux talibans du matériel militaire vidéo à l'appui. Et sur cette vidéo de propagande que vous entendez, vidéo de propagande talibane relayée par Éric Ciotti, on voit un homme présenter un arsenal militaire, des dizaines de chars, de véhicules garés, alignés. Le problème, c'est que ces chars ne sont pas du tout américains.
Ah, parce que vous êtes experte en matériel militaire maintenant, vous.
Pas du tout, j'y connais rien. Mais
alors,
dans ce cas-là, je me tourne vers des professionnels. Et donc j'ai contacté Michel Goya, ancien militaire, lui, et historien, et il est formel.
D'abord, les Américains n'ont pas envoyé de chars en Afghanistan. Ce sont effectivement des matériels soviétiques. Alors, très précisément des chars de type 55 et des véhicules de combat d'infanterie de type BMP qui ont été laissés par les soviétiques après leur départ. Et bien peu de ces véhicules d'ailleurs sont réellement en état de marche.
Éric Ciotti critique donc la politique américaine en s'appuyant sur des images de chars abandonnés par les Russes dans les années 80. Bon, une erreur qu'il n'aurait peut-être pas commise s'il avait effectué son service militaire.
À l'époque où il aurait fait son service militaire, s'il l'avait fait, où on apprenait à reconnaître les véhicules de combat soviétiques qui se trouvaient à l'époque en Allemagne et qu'on pouvait être amené à affronter. Quoi.
Car oui, Éric Ciotti, l'un des plus ardents défenseurs aujourd'hui du retour d'un service national obligatoire, n'a pas fait le sien.
Cette révélation du canard enchaîné, nous sommes en 1991, le jeune Éric Ciotti a 25 ans et a toujours réussi à repousser son service militaire pendant ses études à Sciences Po et il veut complètement ne pas le faire. C'est là que cette lettre que vous allez voir de François Fillon intervient. Éric Ciotti ne fera jamais son service militaire. Ce n'est pas la lettre de François Fillon qui l'a sauvé, c'est tout simplement sa femme qui est tombée enceinte, il en a donc été exempté.
Première semaine de campagne et premier couac pour le candidat des Alpes-Maritimes. Bon après, pas sûr qu'il n'y ait de conséquences sur la scène internationale. À notre connaissance, Joe Biden ne lui a pas répondu.
Eh bien, on interrogera Eric Ciotti sur cette fameuse vidéo, puisqu'il sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI dimanche à midi.
J'ai cru que vous alliez dire on interrogera Joe Biden.
Non,
il sera invité d'RTL Soir demain, peut-être.
Mais peut-être, on va lui lancer
mais
une invitation. On va envoyer un courriel à la Maison Blanche dès ce soir. Petite pause, ensuite on continue de vous accompagner, bien entendu, sur le chemin de la maison avec une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner. On va vous emmener dans les coulisses de Matignon.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h55, on défait le monde dans RTL Soir pendant encore 5 minutes avec maintenant la seconde info pour briller au dîner.
Et Arthur, on ne se refuse plus rien hein, après 15 jours d'émission. Puis je vous emmène dans les coulisses de Matignon où les partenaires sociaux défilent en ce moment.
Oui, certainement, sans savoir en plus qu'ils négocient dans un cimetière d'animaux. Oh. Car oui, et oui, un chien et un chat sont enterrés dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas Jean Castex qui s'amuse à les enterrer. Non, non, ce sont les ambassadeurs austro-hongrois qui occupaient les lieux jusqu'à la Première Guerre mondiale qui ont décidé d'y faire reposer leurs animaux de compagnie. Oh. Voilà pourquoi vous pouvez voir deux pierres tombales dans le jardin de Matignon.
Ah, il y a des pierres tombales.
Il y a des pierres tombales. Il y a des pierres tombales, des sépultures sous un magnolia derrière la porte bleue du 36 rue de Babylone.
Ah, très bonne anecdote. Donc je dois choisir une des deux infos pour
suspense.
Briller.
Suspense. Ah, ou le peuple peut choisir aussi.
Je sens que Laurent va m'en vouloir si je ne choisis pas.
C'est impossible.
Donc je vais choisir le coq.
Oh,
le coq à la place du chien et du chat. Bravo Laurent.
C'est du
clientélisme. Voilà, vous avez brûlé la malédiction.
Je suis très ému.
Deux excellentes infos pour briller ce soir. Au dîner, vous allez briller les amis de l'autre côté du poste.
Marche ou rêve ?
Ou quand RTL Soir vient à votre rencontre, on défait le monde, vous le savez, chaque soir avec vous, juste avant 19h, on met en valeur de jolies initiatives, vos initiatives.
Demain, c'est la rentrée, les trousses sont prêtes, en tout cas à la maison. Et Laurent, vous nous présentez une initiative pour le moins réjouissante.
Oui, Thierry est professeur de sciences physiques au collège, c'était aujourd'hui à sa rentrée. Il est aussi maire de la commune de Saint-Jory, 7000 habitants au nord de Toulouse. Mm-hmm. Grosse journée encore demain, car c'est la rentrée des enfants, tous les parents sont dans les starting blocks, et son initiative va faire parler. Bonsoir Thierry.
Bonsoir à tous, bonsoir à TN.
Alors, si toutes les fournitures n'ont pas été achetées, pas de problème, pas d'inquiétude, vous avez trouvé la solution à Saint-Jory.
Alors, bon, on a trouvé une solution pour une certaine catégorie de fournitures scolaires. En effet, on a pris l'initiative de faire recycler des masques chirurgicaux en plastique, tout simplement, en règle, rapporteur, équerre pour les élèves.
Alors, attendez, comment vous faites pour recycler les masques chirurgicaux en règle et en équerre?
Alors, c'est pas de la magie, hein. Il y a une entreprise qui a été mandatée à cet effet. Nous avons des points de collecte dans les écoles, nous avons des points de collecte également dans les bâtiments des services publics, et aussi chez les commerçants, hein, pharmacie, Carrefour, le boucher. Donc, ces points de collecte récupèrent au fur et à mesure les masques usagés. L'entreprise vient les chercher périodiquement et nous les a transformés en fournitures scolaires pour les enfants.
Tout le monde joue au jeu, vient déposer ses masques usagés?
Alors petit à petit, oui, au début c'était un peu insolite, mais finalement nous avons conventionné pour avoir 12 500 masques et finalement on a augmenté à 20 000. Donc on a récupéré en 2 mois et demi 20 000 masques.
Et il paraît même, Thierry, que les enfants incitent leurs parents à venir vous apporter des masques usagés.
Alors c'est un geste un peu pédagogique des enfants, hein. Du coup les enfants faisant le geste dans les écoles demandent aux parents de faire de même dans les commerces ou à la mairie.
Avec 20 000 masques, vous faites combien d'équerres et de règles?
Alors, on a récolté donc 20 000 masques au mois de juin. Au mois de juillet, l'entreprise nous a amené 300 fournitures globales, c'est-à-dire 300 équerres, 300 rapporteurs et 300 règles.
C'est le maire ou c'est le prof de physique qui a eu l'idée de faire ça?
Alors, conversion de plastique, nous, on sait faire un peu en physique chimie, on le fait, c'est au programme, surtout par la suite. Mais non, mais pas du tout, hein, pas du tout. Ce sont des administrés qui avaient l'habitude de faire la démarche de ramasser par terre, dans la vie de tous les jours, on va dire, qui étaient éco-responsables, qui nous ont dit qu'il fallait essayer de trouver une astuce pour au moins ces masques. Et donc, en cherchant, on a vu qu'une société se lançait dans ce domaine.
Super.
Et du coup, ces équerres, vous les avez offerts aux élèves de la commune?
Ils ont été répertoriés, on a listé des élèves, c'est pour les élèves de CM1 et de CM2. Mmh. Et demain, ils sont distribués, là, on les a mis à disposition des enseignants et des directeurs d'établissement. et demain sont distribués aux élèves.
Formidable.
Et ben bravo Thierry, hein. Des masques recyclés en règle, équerre et rapporteur, c'est l'initiative à Saint-Jory, au nord de Toulouse.
Bravo et bonne rentrée.
Merci.
Merci Thierry, encore chapeau. Merci à vous les amis dont défait le monde. On se retrouve bien entendu demain 18h40.
Hein, en pleine forme.
Avec autant toujours d'envie et d'appétit. Dans quelques instants, ce sera le journal de 19h. Juste avant, un petit point météo.